Bonjour à toutes et à tous. Donc, je d'abord voudrais remercier Marie-Lise Ortiz qui, dans le cadre de ce séminaire, proposé que le Conseil de l'Europe soit associé à ces travaux. Je dirais que c'est une rencontre historique, enfin une première toujours, mais qui ne sera pas la dernière, je pense. Donc, mille merci pour ça. Dire aussi tout le bonheur que j'ai à me trouver à Skopje. Je sais que le Conseil a eu l'occasion de venir déjà en Macédoine. Plus près ? Ouais. Le Conseil a déjà eu l'occasion de venir en Macédoine et faire un certain nombre de missions. Ce ne fut pas mon cas, donc pour moi c'était un peu une découverte. J'œuvre dans des pays un peu plus lointains. Et donc j'ai la lourde charge de vous parler un peu de la position du Conseil de l'Europe sur le thème de la réhabilitation urbaine. C'est une lourde charge parce que d'abord, on me fait démarrer la séance, c'est toujours très difficile de chauffer la salle. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Deuxièmement, c'est une lourde charge parce que la réhabilitation urbaine dans le Conseil de l'Europe, c'est des tas et des tas d'histoires, des tas de discussions. C'est une préoccupation qui est une préoccupation très, très importante et qui perdure complètement dans le temps avec des évolutions assez conséquentes. Donc aujourd'hui, ce thème-là est devenu le thème dominant pour la direction de la culture et du patrimoine culturel, notamment au travers de sa cellule d'appui technique. Cette orientation. Ah oui, mais c'est ça qui me gêne, c'est pour ça. J'avais les écouteurs. Alors, je m'entendais très bien, moi. Ce qui est déjà pas mal. Bien. Cette préoccupation a été notamment renforcée à partir des années 92, avec la chute du mur de Berlin et l'ouverture à l'est du Conseil de l'Europe, où ont été rencontrées des situations sur les centres urbains qui étaient des situations souvent dramatiques, reproduisant un petit peu à l'excès, en caricature, des situations qui avaient été connues dans des pays occidentaux dans des décennies antérieures, avec notamment des niveaux de dégradation relativement élevés qui relevaient du manque, de l'absence d'entretien de la plupart de ces bâtiments qui se trouvaient dans les centres historiques. Tentatives, je dirais même des volontés, hein, de recyclage au sens propre. Quoi, hein, on met à la ferraille et on reprend du neuf. De recyclage des centres anciens qui étaient fondés sur la vision de la ville dite de la modernité, hein, le courant moderne visant effectivement à démolir et à reconstruire et permettant par ailleurs une rentabilité foncière, hein, le dégagement d'une rente foncière relativement importante et une rentabilité foncière intéressante pour les différents opérateurs qui spéculaient autour de ça. Et puis, face à ça, il n'y a pas de grande volonté politique sur le plan public, l'absence de moyens, très très clair. On est dans des situations qui sont quand même des situations difficiles sur le plan économique. Et puis, sur le plan du privé, il n'y a effectivement aucun appétit pour réhabiliter et sauver le patrimoine, dans la mesure où la rentabilité, comme je disais, se situe sur l'optimisation des terrains que l'on trouve en centre-ville, en densifiant, en recyclant et densifiant. Donc, cette arrivée de problème a renforcé la discussion et le débat sur le rôle que pouvait jouer le Conseil sur la problématique de l'habitation urbaine et essayer de dégager un certain nombre d'idées forces. Pour comprendre ça, il faut savoir que durant à peu près un demi-siècle, hein, de la date du Conseil jusqu'à nos jours, un peu plus d'un demi-siècle, plus de 200 textes, hein, donc c'est vous dire la masse, plus de 200 textes à travers des déclarations, à travers des conventions, à travers etc., un certain nombre de choses, plus de 200 textes constituent des textes de référence qui traitent du patrimoine culturel, soit très directement, soit à travers des problèmes, des textes qui traitent de l'aménagement du territoire, où on intègre cette notion, soit à travers des textes qui traitent de l'environnement, où à nouveau on parle de la protection du patrimoine et de sa conservation, soit à travers de textes très importants qui traitent des politiques sociales et où la problématique des centres anciens, de l'habitation est souvent abordée. Pour faire simple et pour résumer, on pourrait dire que sur ces différents textes, il y a deux points qui sont constamment affirmés. C'est l'importance reconnue, identifiée, affirmée de la ville dans la société européenne, notamment sur le plan de l'organisation sociale, comme élément incontournable, hein, on va y revenir, de la cohésion sociale, du fonctionnement social des sociétés européennes, autant que sur la préservation de ses caractéristiques physiques en tant qu'héritage patrimonial. Mais le deuxième aspect, effectivement, qui est complémentaire du premier, c'est le rôle du patrimoine en tant qu'élément privilégié de l'héritage matériel européen, et qui est susceptible d'être fondateur dans sa diversité, mais d'être fondateur d'une véritable culture européenne qui est une culture partagée à travers, effectivement, cette reconnaissance d'un héritage patrimonial. Et si on essaye de comprendre comment s'est construit, finalement, les points de doctrine sur lesquels, dont on va prendre connaissance par la suite, il faut faire un petit détour pour la chronologie, la manière dont, dans le temps, se construit une pensée. On peut, dans une approche chronologique, identifier à peu près quatre périodes qui, successivement, vont enrichir la vision du Conseil de l'Europe, le concept du Conseil de l'Europe sur la problématique de la réhabilitation urbaine. La première époque, c'est celle des années 60-70, et on pourrait dire là, on est dans des discours qui relèvent d'une attitude pionnière, c'est une prise de conscience de la défense du patrimoine culturel et de l'héritage patrimonial porté par un certain nombre de personnes qui commencent à traverser certaines sociétés, hein, en réaction notamment à tout ce qui se fait dans l'Europe occidentale de démolition des centres-villes. La France a connu sur ce domaine-là notamment un certain nombre de situations qui illustrent ça. Et donc, premier niveau de prise de conscience qui traverse effectivement les différentes assemblées du Conseil de l'Europe et la volonté de prendre position pour enrayer ce processus et notamment protéger effectivement cette notion d'héritage, transmettre la notion d'héritage. Mais au-delà de tous les discours, notamment sur les caractéristiques physiques, sur la valeur sociale, sur la fonction économique que remplissent les centres anciens, peu de textes émergeront, on est plutôt dans une notion de prise de conscience et d'attitude pionnière. Deuxième période, c'est les années 80, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, du Conseil de l'Europe, qui est une division qui fonctionne au niveau du Conseil de l'Europe, et va approfondir les travaux des défenseurs du patrimoine, va se ressaisir de cette idée, et va considérer que la réhabilitation urbaine, au sens propre, c'est-à-dire de la conservation et de la remise en situation dans le fonctionnement urbain d'un certain nombre de quartiers. Donc la réhabilitation urbaine est une des composantes majeures des politiques urbaines des développements locaux. Et ça va déboucher sur une notion dont on va parler tout à l'heure, qui est la notion de conservation intégrée, en mettant en évidence que, notamment, quand on parle de réhabilitation urbaine, on intègre des enjeux qui sont transversaux, puisqu'on traite des problèmes sociaux, on traite de problèmes économiques, on a des problématiques environnementales qui s'y rattachent, etc. Et notamment, et de plus, les aspects culturels, les dimensions culturelles qui sont effectivement fondamentales. Et que, autour de ça aussi, peut se construire, déjà germe l'idée, se construire l'idée d'une démocratie citoyenne, c'est-à-dire que on est dans le débat avec les habitants sur le devenir et la préservation de leur ville. Dans les années 90, le propos va s'enrichir avec deux éléments importants. D'une part, la prise en compte relativement importante, et l'émergence et la prise en compte de plus en plus importante, des problématiques de l'environnement et du rôle des défenseurs de l'environnement qui vont faire pression à l'intérieur du Conseil pour qu'effectivement soit intégrée cette notion-là et que la réhabilitation urbaine soit perçue comme aussi un moyen de lutter contre la dégradation de l'environnement, et c'est l'amorce, si vous voulez, de la notion répétée dans tous les coins de rue aujourd'hui, qui est celle du développement durable. C'est-à-dire que la réhabilitation urbaine devient effectivement un enjeu majeur comme réponse en termes de développement durable au niveau du développement de la ville. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est celle que j'évoquais en démarrage de cet exposé, c'est l'élargissement du Conseil de l'Europe en intégrant l'ensemble de ce qu'on appelait autrefois les pays de l'Est, mais qui sont l'Europe orientale, tout bêtement, et qui va amener le Conseil de l'Europe de passer de, je ne sais plus, 27 ou 30 membres à quasiment 47 membres. Donc on change de nature et on intègre surtout des pays qui ont eu des parcours un petit peu différents pendant une certaine période, mais qui sont confrontés à des problématiques, comme je disais, qui ont une situation un tout petit peu dramatisée, et qui, effectivement, vont se tourner vers le Conseil pour essayer de demander de profiter des expériences antérieures, plus ou moins. Donc, le changement d'échelle va à nouveau relancer la problématique de la réhabilitation urbaine, notamment au cours des travaux qui vont aller des Balkans au Caucase. Le Conseil va se balader un peu partout là-bas, à la demande des différents gouvernements, pour regarder ce qu'on peut faire et essayant chaque fois de mettre l'accent sur l'importance et l'intérêt de réflexion et d'engagement des puissants, des pouvoirs publics sur le maintien des centres historiques, la préservation des centres historiques, mais en même temps la redynamisation de ces centres. Comment on fait, comment on peut faire, comment on peut travailler, comment, par où on commence. Dans les années 2000, plusieurs choses vont se passer, vont marquer la législation du Conseil. C'est d'une part les effets de mondialisation, mais surtout l'apparition et la découverte quand même à travers les sociétés urbaines d'une grande diversité culturelle et des grandes diversités ethniques. On est dans des périodes où le brassage devient de plus en plus important, des phénomènes de migration traversent notamment un certain nombre de pays européens, notamment un certain nombre de villes, et que donc on est là sur une réflexion sur l'intégration, notamment parce que ces populations-là se situent dans des quartiers souvent sensibles à l'intérieur des centres urbains. Et le deuxième aspect, c'est que on est dans un chamboulement qui est largement amorcé dans certains pays occidentaux, qui est un peu moins dans certains pays orientaux, mais d'Europe orientale, mais on est dans un changement des rapports État-collectivité locale. On est dans le renversement des rôles, dans le renversement des prééminences. On rentre dans une situation qui, je crois, largement engagée et qui est pour quelque temps au moins irréversible, qui est celle de l'émergence du pouvoir local. Et cette notion de pouvoir local change complètement la dimension et le regard qu'on peut avoir sur la ville, puisque c'est les villes elles-mêmes qui vont avoir leur destin entre les mains, avec des problèmes souvent extrêmement délicats, insurmontables, qui est celui des ressources, qui ne sont pas toujours disponibles, mais aussi avec, finalement, un rapport problème de l'aménagement urbain qui descend au niveau le plus simple, qui est le niveau du citoyen, c'est-à-dire qu'on débat du projet au niveau du quartier, au niveau de la ville, avec ses habitants. C'est l'aboutissement, je dirais, aujourd'hui, finalement, de tout ce processus. Et donc, toute la législation du Conseil de l'Europe s'est enrichie sur ces différents thèmes, sur l'apport qui a traversé toute la société européenne et qui devient effectivement, aujourd'hui, un peu la base à travers certaines actions. Et on pourrait dire que différents cumuls, si on essayait de les simplifier, de les raconter de manière très synthétique, c'est approche d'une dimension physique qui est privilégiée à l'origine. Deuxième époque, c'est cette dimension physique, oui, mais il y a des gens, c'est la dimension sociale qui devient un élément important dans les opérations de réhabilitation. Il ne s'agit pas de réhabiliter les habitants, de réhabiliter les monuments ou les bâtiments, si en même temps on ne prend pas en compte le rôle qu'ils peuvent avoir par rapport aux habitants et comment se situent les habitants dans ce processus de transformation. La troisième dimension qui vient enrichir la première, c'est la dimension économique, qui est très importante, et la prise de conscience qui fait que, bien, finalement, tout le travail sur la réhabilitation urbaine, soit directement, soit de manière indirecte, conduit à considérer cette action comme un acteur privilégié en termes de développement local, soit parce que, par le type de travaux d'intervention qu'elle génère, la renaissance d'un certain nombre de métiers de savoir-faire, la récupération de savoir-faire, mais en même temps c'est toute une chaîne, c'est une chaîne économique qui se met en place, qui fonctionne sur les centres-villes, mais en même temps aussi quand on maintient la population sur les centres-villes ou quand on la repeuple, comme on voyait hier à travers l'exemple de Bayonne, ben finalement c'est des services qui réinvestissent la ville, c'est un fonctionnement économique qui se remet en place et les dysfonctionnements qui commencent à s'atténuer. Et puis, le dernier point, c'est la dimension politique avec, effectivement, le rôle prééminent du local et la place du citoyen qui devient une place importante dans le processus de décision. Sur cette histoire d'un demi-siècle, un certain nombre de... On peut sortir un certain nombre d'éléments clés qui constituent le fondement, je dirais, de la doctrine du Conseil. Cette expression de la doctrine, d'ailleurs, a fait l'objet d'une publication faite par le Conseil en 2004, dans le cadre des opuscules que sort régulièrement le Conseil sur un certain nombre de thèmes. Il en a sorti un sur la réhabilitation urbaine qui essaye de reprendre effectivement à la fois cette chronologie, les différents textes clés et les éléments clés qui font de la doctrine. Donc moi je vais vous les ramener à leur plus simple expression parce que quand on rentre dedans c'est un petit peu complexe et un petit peu lourd et un peu indigeste. Donc comme on est le matin, il ne faut pas quand même s'alourdir l'estomac dès le matin. Alors, la position du Conseil repose en fait sur quelques idées forces qui sont issues des différentes conventions qui concernent plus particulièrement le patrimoine architectural, et j'en citerai deux comme point de repère. Le premier, c'est la déclaration d'Amsterdam en 1975 qui fonde le principe de la protection du patrimoine né de l'engagement de la remise en état du patrimoine, conservation, protection, remise en situation. Et le deuxième, c'est la Convention de Grenade de 1985, qui est encore beaucoup plus important. Ça, c'est du côté, je dirais, physique de la chose. Et de l'autre côté, c'est les politiques sociales qui traitent de la problématique de la ville, et à travers la problématique de la ville, la problématique des centres urbains. C'est la charte européenne qui est une des chartes fondatrices du Conseil, qui est la charte de 1961, mais qui n'entrait en vigueur que complètement en 91, donc quand il passait 30 ans avant que les choses se moulinent bien. Et puis c'est la stratégie sur la cohésion sociale qui a fait l'objet de textes en l'an 2000. Par ailleurs, ces textes sont nourris, sont élaborés, certes, dans les débats à l'intérieur du Conseil, mais aussi en s'appuyant sur un certain nombre d'expertises, de missions que remplit le Conseil dans différents pays, qu'il s'agisse des pays occidentaux ou des pays d'Europe orientale, qui, à travers ça, font remonter un certain nombre de problématiques et un certain nombre d'idées, de solutions, de transformation. De ces textes, on pourrait dire deux choses, qui sont le point de départ, finalement, des points de doctrine. C'est que ce qui caractérise l'Europe, c'est la diversité culturelle de son patrimoine. C'est la grande richesse de l'Europe. C'est-à-dire qu'on n'a pas un patrimoine complètement unique, mais on a un patrimoine qui, à travers le temps, à travers les nations, à travers les histoires, est extrêmement diversifié, est extrêmement riche. Et qui convient donc de préserver et d'assurer la protection de cette diversité. Ça, c'est une ardente obligation. C'est l'idée que l'unité européenne ne signifie pas l'uniformisation culturelle, mais au contraire est fondée sur la diversité culturelle, la reconnaissance d'une diversité culturelle. Mais au regard de ça, et compte tenu des différentes missions qui ont pu être réalisées, des contacts de terrain, des débats, il apparaît que, bien que on soit dans un système extrêmement diversifié sur le plan culturel, on trouve des problématiques qui sont communes, notamment sur le problème des villes. Et il semble qu'il y ait des savoir-faire et des expériences qui puissent être proposées, adaptées, reproduites sous certaines conditions dans les différents pays qui constituent, on pourrait dire, la nation européenne, la maison Europe. Et notamment sur des réflexions de méthode. Il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, mais ce qui a été fait à ici, mais peut-être on va pouvoir le proposer à Kiev en disant, voilà, ils ont fait comme ça, votre problème finalement, il s'apparente, mais trouvez votre chemin. Mais il y a des éléments d'analyse, il y a des éléments de compréhension, il y a des éléments de mise en évidence de problématiques qui sont communs. On a vu hier, à travers un certain nombre d'exemples, qu'on était souvent sur des problématiques communes. Ça ne veut pas dire que les solutions sont les mêmes, mais ça veut dire que le chemin d'investigation, ça veut dire que les questions que l'on se pose, les choix des recherches, les expériences qui ont pu être faites, qui peuvent éviter certaines erreurs, peuvent être effectivement transmises et reconduites. Trois idées forces constituent de fait, quand on balaye un peu, quoi, quand on enlève les choses un peu périphériques, trois idées forces peuvent être retenues pour expliquer la doctrine fondamentale, enfin, les éléments fondamentaux, je pourrais dire, de la doctrine du Conseil de l'Europe. La première, c'est la notion de conservation intégrée. C'est une notion qui a été développée, je le disais tout à l'heure, dès 1975, dans la déclaration d'Amsterdam, et qui dit deux choses. Premièrement, le patrimoine architectural qu'il convient de protéger et de transmettre inclut certes des édifices isolés, majestueux, qui sont des monuments, mais il inclut aussi des secteurs de ville qui relèvent de cette nécessité de protection et de regard particulier, des secteurs de ville ou des villages, et notamment quand on dit ça, c'est dire que ce qui fonde la logique de la protection et de la conservation, ce n'est pas l'élément emblématique, la caractéristique élevée, le discours élevé que peut représenter le monument, mais c'est que du plus majestueux au plus modeste, on a là des éléments qui sont intéressants parce qu'ils sont des éléments de cohérence urbaine, des rues, des quartiers qui tiennent la ville et qui, bien que relevant individuellement d'architectures qui peuvent paraître relativement modestes, leur ensemble constitue un élément majeur qu'il convient de conserver, qu'il convient de transmettre. C'est la première chose. Et donc, qu'il convient d'y associer à ça une action de protection en regardant les conditions de son adaptation à la société. Mais la conservation du patrimoine ne doit pas se traiter d'une manière autonome, c'est-à-dire une chapelle dans son coin à qui on délègue un bout de gras, un bout de viande, là, et qui travaille dessus, qui le protège, qui le nettoie dans tous les coins, qui en fait un objet parfait, mais qu'il convient de lui donner un destin, et que ce n'est pas en isolant ce problème-là qu'on gère la conservation, mais c'est en travaillant sur une coordination étroite entre protection du patrimoine et aménagement, c'est-à-dire que l'aménagement urbain doit intégrer systématiquement la problématique du patrimoine. On n'est pas sur une action identifiée isolée, elle est intégrée, elle doit être forcément intégrée, à la fois à travers les différentes législations qui parlent d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, mais aussi au niveau des systèmes de décision. Quand on travaille sur la ville, quel que soit le secteur où on travaille sur la ville, la dimension patrimoniale est une dimension qui doit prendre une importance aussi forte que celle qu'on accorde au transport, au déplacement, à la circulation. C'est donc dans une approche complètement intégrée de la ville qu'on doit prendre la notion du patrimoine et non pas comme une solution isolée.